Radio. Campus. Paris.
Lundi 23 septembre, 18h47 sur Radio Campus Paris en FM et sur le web, et 18h et bientôt une minute, et c'est toujours l'heure de la relève. Bonsoir, c'est enfin la rentrée de Radio Campus Paris et de la relève. Ce soir, pour bien commencer, on va parler de nouveaux talents. Oui, ils s'appellent Paul, Simon et Idoya. De drôles d'histoires leur arrivent, mes invités sont écrivains. Mais je voulais d'abord vous parler d'une adolescence dans les années 80, de l'histoire d'une bande de filles quand San Francisco n'était pas encore la capitale des entreprises de la tech. Le décor est planté, Dompter les vagues est un roman signé Vendée la Vida, étrangement paru peu avant l'été chez Albin Michel. Alors Eulabie est une jeune fille qui mène une vie tranquille à Sea Cliff, un quartier huppé de San Francisco. C'est une bonne élève qui va dans une école privée pour filles avec ses trois amies qui s'appellent Maria Fabiola, Julie et Fess. Les plus grands problèmes de cette jeune fille sont d'être invitée à la prochaine fête, de se faire remarquer, mais pas trop du garçon le plus cool de l'école parce qu'il faut maintenir sa réputation, et d'obtenir une place dans un bon lycée. Alors quand dans ce contexte, une des filles disparaît, puis une seconde fille disparaît, la panique gagne, d'autant qu'un homme bizarre rôde dans le quartier. C'est un drôle de roman où tout semble un peu ouaté, peut-être parce qu'il y a la distance du temps, même si une dernière partie se déroule 30 ans plus tard avec la rencontre des deux protagonistes. Tout est ouaté, disais-je, mais en même temps, les dangers rôdent, je ne vous ai pas tout raconté pour ne pas divulgacher la lecture. Et c'est aussi drôle parfois comme le récit de l'effet de l'annonce d'un tournage dans une série dans le magasin du père de la narratrice. L'adolescence est peut-être l'âge idéal pour un romancier, nos invités vont nous le dire, tant c'est l'âge de tous les possibles, mais aussi de tous les basculements, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, Vendée la Vida le saisit mieux que personne, dans son récit tout en fausse douceur, parfois avec humour et sans pathos, même quand le plus grave arrive. Vous l'aurez compris, c'est une lecture qu'on vous recommande. Dompter les vagues de Vendée la Vida chez Albin Michel, et la traduction est très réussie et signée de Marguerite Capelle. Ah, bonsoir, 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 merci Richard Magiev d'être avec nous. Bonsoir, Chabi, pardon.
Chabi Molia.
Je sens que j'ai passé la soirée ici.
C'est pas grave. Pardon. C'est parce que c'est un prénom basque.
Et c'est un joli prénom, Chabi Molia. Vous publiez tous les deux en cette rentrée littéraire. Le premier, ça s'appelle La Mission et c'est chez Joël Losfeld. Le second, ça s'appelle La Vie ou Presque et c'est au seuil. C'est bon pour l'instant. Parfait. À tout hasard, vous avez lu Dompter les vagues l'un ou l'autre ? C'est
ah
l'interro surprise.
Non.
Bon, bah, vous auriez pu.
Non.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première rentrée littéraire ?
Moi, je réponds oui, c'est vieux. Hein. C'était en 1988 pour un livre qui s'appelait Un petit homme de dos et qui a eu un destin incroyable. Voilà.
Ça, c'est
à dire ? Bah, parce que, comme nombre de mes livres, j'ai planté à mort, mais le livre a été republié par la suite par Joël et il continue d'être publié depuis donc 1988.
Voilà. Mais vous étiez dans quel état en 88 au moment de cette parution ?
Dans quel état ?
Ouais.
En fait, je priais pour avoir le prix Goncourt. Je ne sais pas, je ne suis pas croyant, mais je priais parce que je pensais naïvement, j'étais débarrasseur de cave avant. Je pensais que tout était ouvert.
Vous croyez que c'était que le meilleur gagnait ?
Oui. Donc je ne savais pas tout.
Ah bah, il faut que vous lisiez le livre de Chabi Molia.
Ah bah,
c'est
voilà.
Pas forcément le meilleur qui gagne. Et vous, vous rappelez de votre première
rentrée littéraire ? Oui, ma première rentrée littéraire, je crois que c'était pour mon deuxième roman. C'était en 2004. C'est un roman qui s'appelle Supplément au monde inhabité. Et en fait, à l'époque, j'étais un peu déconnecté. Et surtout, j'ai publié des romans chez Gallimard. Et Gallimard ne communiquait pas forcément beaucoup. Et donc, j'étais en Amérique du Sud, à Santiago du Chili, et j'avais trouvé dans un kiosque un magazine branché à l'époque qui s'appelait Les Inrecuptibles, et j'avais découvert que j'étais dans la sélection de la rentrée. J'étais fier comme un pou, mais très très loin de tout ça quand même.
Oui, vous pouviez en parler à personne alors parce que
J'en ai parlé à ma compagne, la pauvre, ça a duré 8 heures, j'ai dû lui parler que de ça pendant toute la soirée.
Est-ce qu'on est obsédé de chercher dans la rue les gens qui ont acheté votre livre ? On va traîner dans les librairies, voir s'ils sont mis en place ?
Non, j'ai rencontré pas mal d'écrivains qui, pour leur premier livre, étaient allés en librairie l'acheter, notamment un qui avait acheté son livre, mais il habitait loin et il n'avait plus de fric pour rentrer. Et tout, j'étais rentré en stop. Voilà.
Ouais. Et vous ?
Moi, je crois qu'on a tous un peu ce rêve, mais c'est très romantique hein, d'imaginer qu'on va un jour croiser dans le métro, dans la rue, quelqu'un qui est en train de lire notre livre. Et je dois dire que 24 ans après avoir commencé, ça ne m'est pas encore arrivé.
Alors, moi, ça m'est arrivé. Ah. Une fois, avec Joël Losfeld, tous les deux ensemble.
Alors, je rappelle, c'est votre éditrice.
C'est mon éditrice. pour le livre qu'elle avait réédité, qui s'appelait Un petit homme de dos, j'en ai parlé. Et il se trouve qu'on était assis, Joël et moi, je me tourne, et je vois une dame qui lisait un autre de mes livres. Mais c'est arrivé une fois.
Et alors là, vous faites quoi? Vous allez la voir?
Non. Non, je me suis dit, c'est vrai qu'ils vendent des livres.
C'est pas des faux chiffres.
C'est pas mytho.
Comment on passe de débarrasseur de cave à écrivain?
Alors ça, j'avais fait un vœu de ne pas écrire pendant 10 ans pour me punir. Le vœu est passé, j'étais débarrasseur à cette époque. J'ai envoyé mon bouquin par la poste à un éditeur et il l'a pris.
Et pourquoi vous avez fait un vœu, enfin, sans être indiscret?
Pardon?
Vous avez dit, j'avais fait un vœu de ne pas écrire pendant 10 ans?
Oui, parce que j'avais écrit un livre à compte d'auteur et j'avais tellement honte d'avoir fait ça que je me suis dit que j'arrêtais. Et j'ai arrêté 10 ans, c'est vrai. Mais je me suis même pas, à l'époque, je ne me suis pas aperçu que j'avais été relevé de mon vœu. C'est bien longtemps après, 10 ans ou 15 ans après, je me suis dit voilà.
Et vous? Vous vous rappelez de qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se met à écrire?
Non, j'ai pas été débarrasseur de cave. Non, moi je suis vraiment dans ce cliché de au CE2, j'écrivais déjà des poèmes. Alors j'écrivais des poèmes nostalgiques sur l'enfance ou bien des poèmes patriotiques.
Patriotique basque ou français?
Non, français. J'étais très comme ça, la grandeur de la France. Donc comme quoi on peut guérir de tout. Et voilà, et moi j'ai toujours été dans cette envie à 13-14 ans d'être écrivain et de tout faire pour que ce soit possible, de chercher même des études et un métier qui pouvait peut-être me permettre d'être écrivain. Donc au début je pensais que j'allais être enseignant, je le suis devenu et puis à un moment donné j'ai pu me consacrer uniquement à ma carrière artistique.
Nostalgique de l'enfance à 10 ans?
À 8 ans, oui, ce qui veut dire que ça devait être très très fabriqué, hein, mais j'avais dû lire comme ça des textes sur les beautés de l'enfance et tout ça, et je recopiais, enfin j'essayais de réinventer.
Non, alors vous regrettez.
Voilà. Vous étiez peut-être vraiment nostalgique.
Hein. Ouais. C'est ça, peut-être.
Alors vous, Richard Morgier, j'imagine, est-ce que vous êtes nostalgique de l'enfance?
Pas trop. Hein.
Pas trop. Je suis pas très bon en résumé de livre, alors je vais vous demander de le faire, le vôtre, vous-même. Quelques mots. Alors je raconte le début. Alors. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Jacques, si ma mémoire est bonne. Ouais. On le découvre, il est au bord d'une route quasiment, on découvre très vite qu'il est en train de s'évader, mais on ne sait pas de quoi. En fait, c'est un enfant d'assistance, voilà. On appelait ça comme ça, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui.
On dit un enfant d'assistance, ou alors c'est interdit,
On est en 1944, voilà. Et il va se retrouver en plein maelstrom de la libération, épuration, c'est pas très bien.
Le destin, voilà. Il est né un 6 juin 1944, c'est le jour du débarquement.
Non, il n'est pas né le 6 juin. Il a 17 ans en 1944.
Oui, mais il est né un 6 juin.
D'accord.
Et c'est le 6 juin 1944. Ah,
voilà. Est-ce que ce qui vous intéressait dans cette histoire, c'est le fait qu'à ce moment-là, tout est possible, comme je disais?
On l'a évoqué, oui. En fait, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que je venais de jeter un bouquin qui s'appelait La Mission, qui était une grosse merde. Et j'ai décidé, c'est pas la première fois de ma vie, je pourrais peut-être battre Amélie Nothomb là-dessus. J'ai décidé d'immédiatement de réécrire un bouquin qui s'appelait La Mission.
C'était le titre.
J'ai gardé que le titre parce que j'en avais marre de ne pas arriver à faire cette mission. Mais j'ai changé d'histoire et tout. Et le gamin qui s'appelle Jacques, en fait, je me suis aperçu là que le héros d'avant de mon livre d'avant l'année dernière, il s'appelle Jacques aussi. Donc mon imagination, elle est très faible.
Mais le potentiel de cette période-là, cette période historique-là, vous
intéressez
pas du tout?
Moi, j'aime bien mettre des livres dans des moments d'histoire où c'est la merde. Parce que sinon, si on fait un livre maintenant...
Mais là, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il est très jeune, il est assez innocent au monde,
et
l'espèce d'opposition qui se passe autour de lui, on a l'impression qu'il ne comprend pas grand-chose.
Non.
D'ailleurs, on n'est même pas sûr que les autres protagonistes n'y comprennent grand-chose.
Oui, on ne comprend pas notre destin. Tous les trois, alors, en ce moment, on comprend quoi? Rien.
Non, pas grand-chose.
Enfin, je crois, on comprend.
Chabi, vous comprenez quelque chose?
Non.
Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est...
C'est
donc
bien.
Vous partez d'une image et vous construisez après le livre?
Le héros m'est venu grâce à
l'inspiration.
Voilà, si on peut dire. Et puis ensuite de quoi en revanche, ce qui m'est arrivé de bizarre dans ce livre, c'est que très souvent, j'ai lutté contre l'histoire qui me venait en me disant « arrête tes conneries, ça ne va pas, personne ne pourra suivre cette histoire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. » Et je l'ai écrit un peu, pas contraint, mais... en me disant bon, c'est bizarre.
Voilà. C'est bizarre, c'est-à-dire c'est ce que vous
cette histoire est bizarre.
Cette histoire est bizarre. Vous-même, vous la trouviez bizarre.
Oui.
Mais vous travaillez avec un plan ou pas du tout?
Pas du tout. Bah non, ça, alors là, surtout pas. Hein. J'ai même des théories. Bah, on voit les livres qui sont écrits avec des plans. Hein. Le mec, il suit le plan. Ouais, vous voyez, ce qui est bien dans un livre, c'est quand ça échappe. Les bons livres. Vous voyez, le livre, c'est une chose. Il est écrit à une page, puis le lecteur, en plus, il truande et tout. Et c'est bien, c'est quand le livre, il échappe.
Il vous échappe, celui-là, à un moment?
Ah, mais carrément, puisque j'étais triste. Enfin, Patrick, je me disais, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il a fallu que je le fasse.
Et donc là, c'est l'éditrice qui vous dit que ça va?
Oui, enfin, moi, j'ai un système particulier. Je le fais lire à deux personnes avant de le faire lire à mon éditeur.
D'accord. Vous avez des plans ou pas?
Comment ça va? Pardon.
Mais c'est pas grave. Il y a autant de façons d'écrire que de lire.
Non, mais c'est ça. Et je pense qu'il y a autant de façons de bien écrire que. Moi, j'aime beaucoup Flaubert et j'aime de plus en plus Zola. Et c'est vrai qu'ils écrivaient avec des plans. Après, là où peut-être je peux rejoindre Richard, c'est que moi, je fais un plan, mais c'est un peu pour faire semblant, c'est un peu pour me donner du courage. Et en fait, là où je suis d'accord, c'est qu'il y a toujours un moment où le livre échappe au plan. Voilà. Il y a toujours un moment en fait, où le livre ne veut pas aller là où on avait prévu qu'il aille. Il y a toujours un moment, et c'est rien de magique, mais moi, j'ai vraiment des moments où le personnage ne veut absolument pas faire ce que j'ai prévu qu'il allait faire. Mais ça veut dire que le livre commence à fonctionner, c'est-à-dire que ça commence à être une sorte de quelque chose d'un peu organique. Et donc ça doit aller là où ça doit aller, et c'est pas forcément là où on avait envie que ça aille.
Ça veut dire qu'à ce moment-là vous n'arrivez plus à écrire ce que vous voudriez écrire?
Ça veut dire que je regarde mon plan et que je me dis bah non, si j'écris ça aujourd'hui ça marchera pas du tout, donc je me relis et à partir de ce que j'ai écrit je me dis ok, là maintenant où est-ce que ça a envie d'aller,
voilà. Et vous c'est pareil?
Je voudrais relever quelque chose qu'a dit c'est Chabi, hein, je ne me trompe pas, quelque chose que Chabi a dit et qui moi je pense est essentiel. Donc, merci, Chavi, de l'avoir dit. C'est organique. Moi, je pense que les livres, ça vient des organes. Mm-hmm. Ça ne vient pas de l'esprit. Ça vient d'une voie supérieure. C'est relié par nos organes. Nos organes savent ce que nous, on ne sait pas. Pardon, Chavi, c'est vraiment hyper important. Et on voit l'écriture organique. On voit l'écriture qui ne l'est pas. On le voit. C'est patent.
Ça s'entend ou ça se lit?
Ça se voit.
Vous aimez qui comme auteur, Zola, Flaubert?
Zola, je l'ai énormément lu quand j'étais petit.
J'en profite.
J'ai tout lu parce que ça me passionnait. Flaubert, j'ai jamais accroché dessus vraiment, honnêtement. Pardon. Voilà.
Mais c'est pas grave, vous n'avez pas
obligé. J'ai énormément, mais
en fait, déjà, il y a plusieurs Flaubert. Moi, il y a des Flaubert que je n'aime pas du tout. Quand j'aime Flaubert, j'aime Madame Bovary, mais je peux. Salambo, ça me tombe des mains. La Tentation de Saint-Antoine. Enfin, voilà, Flaubert, en fait, il a fait peu de livres et en fait, on l'aime énormément, mais on a le droit d'être sévère avec certaines choses qu'il a faites.
Ici, au micro, en tout cas, on a tous les droits, on ne passe pas d'examen. Et aujourd'hui, vous aimez qui, Richard?
Comme écrivain français. Par exemple, je viens de lire. Bon, j'étais dans des circonstances un peu particulières, j'ai reçu un livre par la poste, il y a ça 2 mois, et je ne sais pas,
c'était un
envoi anonyme. Maintenant, je sais qui me l'a envoyé. Ah. Et c'est La guerre de Louis Calafert. La vache, je vous le recommande. Vraiment.
Moi, j'ai jamais lu.
C'est un livre, vraiment, vachement bien. Et c'est drôle parce qu'il faisait écho au livre que j'ai écrit, La Mission, parce que c'est la même époque et tout.
Et c'est organique, Calafert?
Si vous avez lu Le Requiem des Innocents, ouais, sans peut-être. Oui, enfin, bref, c'est pas ça, mais bon. c'est un écrivain puissant, oui. Vachement, vachement puissant.
Alors, normalement, il y a une question que je pose toujours, mais là, je sens que je vais avoir la pensée, puisque vous nous avez dit avant. Moi, j'aime bien savoir quand on travaille, à quel moment on se dit c'est bon, je tiens l'histoire. Vous, ça vous est arrivé là? Non. Vous avez lutté contre le livre pendant tout le livre? Alors, vous avez lutté contre?
Oh, j'ai lutté contre, oui, longtemps. Mais en fait, je ne sais pas si c'est pareil pour Chabi, mais moi, je vais vous dire là-dessus. Par moments, je sens une telle force, une telle joie ou tristesse que ça m'explose. Hein, ça ne dure pas longtemps. Alors, j'ai une technique parce que moi, je n'arrête pas de me lever pour faire la vaisselle, laver des chaussettes, aspirer, parce que je me méfie de mon envolée et de croire à, que je suis rattaché à une surpuissance. Hein. Donc, des fois, je crois vraiment que c'est beau ce que j'écris, et c'est pas sûr.
Et vous?
Moi, la certitude, d'abord, elle est jamais tout à fait là, mais je sens qu'il y a une histoire, en fait, quand je le fais lire à la première personne à qui je le fais lire. Donc, c'est très, très tard. Et c'est le lecteur ou la lectrice qui me confirme qu'il y a quelque chose. Mais jusque-là, bah, ce livre-là, par exemple, j'ai failli l'abandonner alors que j'étais très très loin dans le texte et j'étais désespéré. J'avais J'avais l'impression que ça ne marchait pas du tout. J'avais l'impression que peut-être justement je suivais le plan. J'avais l'impression que c'était sec, que c'était voilà. Alors moi, je suis parti me baigner dans l'eau et vraiment en me disant Chabi, arrête ce livre, voilà. Et je suis revenu c'était de l'eau très froide de Bretagne. Et quand je suis revenu, je me suis dit allez, j'essaye quand même encore. Et là, j'ai écrit deux phrases, je sais très bien lesquelles dans le livre, qui m'ont plu. Et ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas écrit deux bonnes phrases. Et je me suis dit, bon, si j'ai réussi à faire ces deux phrases-là, et vraiment, je les aime bien, allez, ça vaut peut-être la peine d'essayer encore pendant quelques mois.
Ah, ça tient à deux phrases. Ouais. Sinon, vous auriez pu l'abandonner.
Ouais. Ça tient au fait qu'il s'est jeté à l'eau.
Non, mais ça, on sait que la Bretagne, c'est bon, mais...
Ouais, ça tient à deux... Non, mais ça tient, oui, ça tient à des moments où entre de soi à soi, on a un bonheur, quoi, un bonheur d'écriture. Mmh. Voilà, peut-être qu'on se trompe, mais on se dit, ça c'est bien.
Dans votre roman, Richard Morgiev, je reviens à vous, ça fait plusieurs fois que vous parlez de puissance divine, de Dieu est très présent. Donc vous dites que
oui,
vous êtes,
c'est ça qui m'embêtait profondément.
Et vous avez dit en plus que vous étiez athée, si je ne m'abuse pas.
Oui, je suis athée,
début.
Mais bon, la foi, moi je donnerais tout pour croire, mais je ne crois pas, comme je suis honnête, je n'ai pas envie de déconner ce genre de truc. Mais justement, ce qui m'embêtait dans mon bouquin, c'est la foi, parce que je sais que la foi n'est pas partagée et que ça peut choquer, mais repousser des gens, hein, je le comprends très bien. Je comprends et ça m'emmerdait à fond.
Mais il était là, c'était obligé.
Mais oui, bien sûr, c'était obligé.
Il y avait besoin qu'il soit là.
Oui, et donc ça m'embêtait.
Parce qu'il y a Dieu, mais il y a surtout le diable.
Oui, mais l'un va passer à l'autre.
Oui, alors vous croyez au diable.
C'est pas le diable, c'est le malin.
Est-ce que vous croyez au malin?
Alors, moi, sauf au niveau du cancer, j'y crois ou j'y crois pas, j'y crois au niveau du cancer. Je crois que les histoires en ont besoin.
Il faut qu'il y ait le...
Je crois qu'on a besoin du mystère. C'est là qu'on peut rejoindre la foi. Je crois que la foi et le malin vont bien ensemble et que le malin peut être l'emporté de la foi ou le contraire. Mais voilà, c'est pas calculé. C'est organique, pour paraphraser ce que disait Chabi.
Sans rien dire de votre livre, on n'en dit rien si on ne parle pas de votre manière d'écrire. Vous travaillez comment justement? On en a déjà un peu parlé, mais vous revenez souvent sur vos phrases, vous les travaillez beaucoup ou là vous étiez dans une sorte d'aspiration?
Non, ça existe. Je ne crois pas que ça existe. Hein. Le truc de Victor Hugo, qu'on attribue à Victor Hugo, 10% d'inspiration, 90% de transpiration, voilà. Je pense que... Bah, ça se réécrit tant qu'il faut que ça soit réécrit, et donc c'est sans fin.
Vous aimez les auteurs des années 30? Parce que moi j'ai beaucoup pensé à eux en vous lisant. J'ai pensé à des auteurs comme Henri Calais ou Luc Dietrich.
Alors moi j'ai bien aimé La peau et les os d'Hiverneau.
Ouais, ou ceux-là, ouais, tous ces auteurs-là.
Calais, je connais moins. Non, je dis pas du tout, mais attendez, je suis bien content parce que je pense que j'aspire ce que je veux être. Je l'aspire, pas j'aspire. Mm-hmm. Donc quand je veux faire un bouquin en 30, il m'arrivait un jour un truc marrant, j'ai écrit un bouquin sur un tailleur juif. À Radio J, j'étais à Radio J. Le standard était bloqué, il y a plein de gens qui voulaient que je sois juif. C'était très important pour eux, alors que je leur avais dit que non.
Et donc là, vous vouliez être un écrivain des années 30, peut-être?
Je voulais écrire une histoire à cette époque. Voilà.
Alors moi, j'ai entendu des critiques qui vous reprochaient des invraisemblances dans votre livre, mais j'ai l'impression que finalement, vous en foutez.
Lesquelles invraisemblances?
Vous êtes plutôt dans le conte. Moi, je ne sais pas, il faut leur demander. Hein. Vous êtes plutôt dans le conte, là, non? Voire même dans un rêve. J'ai relu justement le début après, en préparant l'émission, et je me suis aperçu qu'en fait, ils n'avaient rien compris, parce que si on lit bien, est-ce que tout ça n'est pas un grand rêve? Alors non, là, vous faites un geste qui n'est pas du tout radiophonique.
Non. Ce qui compte, c'est la vie du lecteur. Moi, ce que je dis, c'est que j'écris un bouquin qui est naturel au départ, naturaliste, pour en dire. Hein. On pourrait dire que le mec, si j'écrivais comme ça, il a des calques dans les mains. Et puis, de ce bouquin qui est naturel, naturaliste, on arrive à un bouquin tend vers la foi, la croyance, et donc, entre guillemets, le surnaturel.
On va quand même dire qu'on y parle d'amour, quand même.
Oui, mais l'amour, c'est de la foi.
Oui.
L'amour, c'est pour moi, pardon. Hein, l'amour, c'est croire.
Jacques va rencontrer l'amour, voilà. Un amour très particulier. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas. Moi, je pense qu'on n'a pas intérêt à raconter au lecteur qu'il découvre.
Oui,
vous êtes d'accord avec moi
raison.
Parce que c'est une vraie surprise. On ne s'y attend pas,
oui,
quand on le lit.
Je suis tout à fait de votre avis.
Donc, on ne dit rien?
On dit que dalle.
Ça leur apprendra. Ils auront qu'à lire s'ils veulent savoir. Votre roman se termine par cette phrase. Moi, j'en ai fini. Les histoires veulent trop de ceux qui les écrivent. C'est le narrateur ou c'est vous qui écrivez?
C'est-à-dire que je me suis permis de faire ça. C'est à la limite. on pourrait très bien me le reprocher.
Je ne reproche rien.
Je ne me le reproche pas, mais je dis qu'on peut très bien me le reprocher. Mais c'était tellement sincère, je pleurais tellement que...
En finissant le livre, vous faites pleurer aussi. Hein.
J'étais bouleversé. Et donc cette phrase, elle est à la limite parce qu'elle se la pète un peu.
Moi, je l'entends pour la première fois, je la trouve formidable.
Mais Chabi, c'est à la limite de la limite. Quand même. Mais j'en ai conscience, et on me le reprocherait, je le dirais.
Ce que vous voulez dire par là, vous voulez dire que c'est à la limite du grandiloquent, de la pose de
crin. Oui, c'est à la limite de la posture.
Et c'est vrai que vous êtes dans l'inverse absolu dans la manière d'écrire.
Comme c'est à la limite de la posture, je comprends très bien qu'on me dise, vieux con, te la pète pas.
Non, mais quand on lit, ça ne fait pas du tout un posture.
Oui, il n'y a que deux lecteurs. Vous êtes là, merci beaucoup.
Écrire des histoires, ça demande beaucoup à l'écrivain, mais ça lui apporte beaucoup, ça lui donne beaucoup quand même, rassurez-moi.
Si ça me donne ouais. D'abord, ça me donne que je vis, que je ne me suis pas jeté par la fenêtre.
C'est bien un mot.
Pareil, ouais, ça me donne tout, moi. Enfin, je veux dire, je sais pas, je pourrais rien faire d'autre. Donc, je pense que si je suis encore là, c'est parce que je raconte des histoires. Et puis, ça me donne plein de choses. Dans ce à quoi je pense, en fait, un truc que j'aime bien dire, c'est que souvent on oppose le livre et le monde, comme si passer sa vie dans les livres, c'était s'éloigner du monde. Et moi, en fait, je m'aperçois que les histoires que je lis, les histoires que j'écris, elles me servent en fait à mieux comprendre la vie et le monde. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est fondamental.
Alors, je sais pas si vous aimez la musique, mais on va en écouter un petit peu. Et on se retrouve après. For some time now, he found her. He looked for something from someone, felt so real. For some time now, she lost him. She ran for nothing, for someone felt so free. For some time now, I watched them. I've seen things, I've heard things, I know I can't explain. For some time now, I don't want this. There's no peace to this light, all we get is the shade. She said, you can't stop me, you can take me, can't hurt me, can't hate, just don't kiss me, so no. Take my son, no. Don't take our son, no. Don't take my son, no. Protect our son, cause I'm free.
Conceptions of path corrections for marriage
maybe
sessions.
Sometimes I do love.
Lost trust, deep lust and debauchery. Too much for an eavesdrop. So aggravated and frustrated and saturated. His teardrops, his whole life crop. Two figures, family pictures, no male figures. Who you live for, who you live with. Fortnights, two addresses, no real home. For he's too weak with deep cuts from mistrust. This is naive, please don't leave. Cause the separation would break us. Lie to me, say it's alright. But this noose I wear is on too tight.
Don't be so shy, boy. You know, you can look at it.
Thank you.
Voilà, c'était Houdini featuring Safe Travel et ça s'appelle Ella. Vous avez vu comme je parle bien anglais, ça vous a impressionné.
Trop fort.
On est toujours avec Richard Morgiev pour la mission, c'est Joël Losfeld et Chabi Molia pour La Vie ou Presque aux éditions du Seuil. Alors Chabi Molia, vous aussi, vous êtes dans votre genre un écrivain singulier, on vient d'écouter longuement Richard. Vous n'êtes pas dans le conte, mais j'ai l'impression que vous croyez toujours dans la fiction. Et à chaque fois, vous faites des livres très différents. Est-ce que pour commencer un livre, vous avez besoin que ce soit complètement différent de ce que vous avez fait avant ?
Oui, complètement. Il y a plein de types d'écrivains, mais il y a deux types d'écrivains que j'admire également. Il y a ceux qui écrivent toujours le même livre. Patrick Modiano dit par exemple qu'il a besoin d'oublier le livre d'avant pour écrire celui d'après parce que c'est fondamentalement toujours le même. Et puis il y a un écrivain moi, que j'ai adoré, qui m'a complètement marqué, qui est Georges Perec, et qui disait, voilà, moi mon rêve ce serait de ne jamais revenir dans mes pas. Et je crois que j'ai profondément ce désir-là.
Vous ne pourriez pas réécrire un roman d'aventure comme celui dont vous parliez avant ?
Non, en fait, j'ai l'impression...
Enfin, je crois que vous en parliez pendant la musique, donc les gens ne savent pas duquel on parle.
Ça revient un peu à ce que disait Richard tout à l'heure. Je trouve que c'est hyper dur d'écrire un livre qu'on ne sait pas écrire. Et en même temps, écrire un livre qu'on a fondamentalement déjà écrit ou un peu déjà écrit, c'est mortifère. Enfin, c'est l'enfer, c'est la mort. Quoi. C'est le savoir-faire dans le pire sens du terme.
C'est-à-dire qu'au moment où si vous repassez sur quelque chose que vous semblez connaître, vous dites là j'arrête tout de suite.
Bah, si un livre,
si c'est trop en territoire
si
commun,
un projet de livre ressemble à un livre que j'ai déjà écrit, je n'arriverai jamais à le faire. Voilà. Donc moi j'ai besoin d'aller à chaque fois un peu ailleurs et c'est un peu vertigineux parce que je ne sais pas faire. Je me sens toujours débutant en fait.
Ah oui, à chaque fois vous avez l'impression de recommencer, ouais, à gravir la montagne.
Ah oui, et puis j'ai même, si j'arrête d'écrire moi pendant plusieurs mois, j'ai même un rapport à la langue française où j'ai l'impression d'être, de plus savoir la langue. Par exemple, je tâtonne sur les expressions, je me dis mais ça se dit ça en français comme si j'avais en partie perdu la langue.
C'est voilà. Pour ça que vous avez pu être tenté par le cinéma ou par la bande dessinée à certains moments, c'est que vous arriviez plus à écrire ?
Non, ça c'est autre chose, c'est plutôt que j'avais vraiment envie de raconter plein d'histoires différentes et il y en a, je trouvais que c'était foncièrement des romans et d'autres je trouvais que c'était foncièrement du cinéma. Et donc si j'avais pu renoncer à une histoire, j'aurais jamais fait de cinéma. Et puis comme j'arrivais pas à y renoncer, bah, je suis allé essayer de faire du cinéma à certains moments. Voilà.
Vous avez réussi, j'ai fait
une bande dessinée, j'ai fait... Voilà, mais c'était
vous interdisez rien, autrement dit.
Bah, voilà, c'était chaque fois dans l'idée de me dire, voilà, j'ai envie de cette histoire, j'en ai besoin, et c'est pas un livre, donc si j'en ai besoin, il faut que j'essaye de la raconter sous la forme qu'elle exige de moi.
Alors ce livre-là, La Vie ou Presque, que vous vous amusez, enfin je sais pas si vous êtes amusé, mais j'espère, à mélanger plusieurs genres, on est un peu dans un portrait de génération, dans le récit d'une rivalité entre deux frères, mais aussi... On revient à ce que vous disiez juste avant la pause musicale, c'est quasiment une réflexion sur est-ce qu'on écrit parce que la vie ne suffit pas ?
Oh ouais, vaste question.
Alors je vais vous poser une autre question. Au départ de toutes ces histoires, laquelle vous aviez envie d'écrire ? Elles se sont enchâssées naturellement ou vous aviez envie plutôt d'écrire sur la littérature, plutôt sur la rivalité entre deux frères ?
En fait c'est
plutôt...
marrant parce que c'est un livre auquel j'ai pensé il y a une dizaine d'années et en me disant il faut surtout pas écrire ça, un écrivain va pas écrire des vies d'écrivain, je sais pas, j'avais peur de l'entre-soi, j'avais peur d'un truc qui tournerait à vide. Et puis 10 ans après, quand une idée, 10 ans après, vous en avez toujours envie, c'est peut-être qu'il faut la suivre. Et cette idée, elle se reformulait différemment. Sans ces craintes-là, je me suis dit, bah, en fait, c'est hyper étrange que certaines personnes, dont moi, passent leur vie avec des livres. Alors c'est vrai des libraires, c'est vrai des grands lecteurs, c'est vrai des écrivains. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours... Qu'est-ce qui fait qu'on se lie au livre alors qu'on est dans une époque qui est hyper technologique, où il y a plein de manières de passer son temps, plein de manières plus faciles que celles d'ouvrir des livres, il y a plein de manières de raconter des histoires qui sont plus performantes, entre guillemets, qui sont plus bruyantes, plus immersives, et pourtant moi j'ai encore besoin des livres. Et donc j'ai eu envie de partir de cette question-là, j'ai pas vraiment la réponse, pourquoi on a encore besoin des livres ? Pourquoi les livres restent dans un monde qui a priori, qui leur est de moins en moins hospitalier, quoi. Voilà. Et donc j'ai essayé de raconter ça à travers trois jeunes gens, deux frères et leur voisine qui sont amis et surtout qui ont cette espèce de passion mystérieuse, besoin de littérature. Et effectivement, ils ont une croyance hyper forte dans la littérature. Ils ont l'impression que la littérature, à un moment, je le dis, je crois, dans un des premiers chapitres, ils ont l'impression que la vie sera plus aimable s'ils la passent à écrire. Voilà.
Il y a trois archétypes, on peut dire. Je ne sais pas si vous... ça ne vous plaît pas.
Bah, ça ne me plaît pas parce que
c'est des personnages, c'est des vrais personnages.
Ouais, c'est-à-dire que le risque, quand on fait un livre comme ça, c'est effectivement de se dire je vais faire une typologie des écrivains,
non,
je vais faire un écrivain
typologie.
Comme ci. En fait, c'est des gens qui croient très très fort voilà, au pouvoir de la littérature.
Alors on va dire qu'il y a trois vies différentes, trois chemins de vie différents. Il y a Paul qui devient un écrivain à succès.
Oui.
Il y a Simon qui, bon, là c'est moi qui caricature, qui écrit un peu en trempant sa plume dans le sang, on peut dire ça. Il est un peu sur ce modèle-là. Et puis, il y a, en tout cas, il est mu par une nécessité. Voilà, c'est ce que j'avais écrit dans mes notes. Et puis, il y a Hidoya qui est la perfectionniste empêchée.
Oui, c'est ça. En fait, voilà, les deux frères, l'un a un succès très tôt. Et en fait, ce succès, c'est pas du tout facile à vivre. Moi, j'ai des amis qui ont du succès en littérature et ils ont des grands tourments. Parce que quand vous avez du succès, se pose justement la question de comment le reproduire. Est-ce que je dois le reproduire? Et de courir après ça, ça peut être terrible. Et c'est une forme de mort, en fait, quand vous essayez de reproduire le succès. Et puis il y a quelqu'un qui est un peu fui par le succès, qui est son frère.
Vous écrivez quelque chose, hein, ce que j'avais noté. Il n'ose pas avouer, mais ce succès lui est venu trop tôt. Si ses deux premiers romans avaient chacun du style, il ignorait encore quel écrivain il voulait être.
Oui, parce que quand ça vous arrive très très jeune, le succès, ça peut arriver à un moment, en fait, où vous avez écrit un livre et puis c'est pas forcément ce qui vous définit. Vous avez peut-être envie d'aller ailleurs. Moi, je trouve qu'un artiste, il passe d'abord du temps à comprendre ce qu'il n'a pas envie de faire. Et parfois, il faut le faire. Moi, j'ai fait un film, par exemple, et j'ai compris en le faisant que c'était pas du tout ça qu'il fallait que je fasse. Quoi. Un film hyper premier degré à la Frères d'Ardennes. Et puis, je suis pas les Frères d'Ardennes, donc c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc parfois, on fait des choses aussi pour les éliminer. Et lui, il saura jamais en fait si par où il aurait dû commencer. Et puis Hidoya, elle ressemble en fait à un de mes meilleurs amis. Elle a un tel désir de perfection que en fait elle est menacée de ne jamais publier. Alors est-ce qu'on est écrivain quand on publie pas? Est-ce qu'on est écrivain quand on est lu par personne? Je sais pas. Moi mon grand ami, il me fait lire ses livres depuis 20 ans et chaque fois je lui dis c'est vraiment beaucoup mieux que la plupart des choses qui sont publiées. Et il me dit ouais, je vais juste retravailler. Et puis 3 mois plus tard, quand je le retrouve, il me dit non, mais en fait j'ai laissé tomber et je vais écrire autre chose. Et ça fait 20 ans et il n'a toujours pas publié.
Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quelque part des livres extraordinaires, enfin en tout cas des très bons livres qu'on ne lit pas.
Oui, ça, j'en suis persuadé, bien sûr, bien sûr.
Je ne sais pas si mon ami. C'est écrivain, les gens qui ne publient pas, Richard Mangiève. Pardon, c'était pas une question
plus. Non, c'est. Je ne me hasarde pas sur ce débat.
Bon. Ouais, c'est une question compliquée. Est-ce qu'on est comédien quand on joue Hamlet seul dans sa cuisine? Je ne sais pas ces questions-là, moi.
N'oubliez jamais que Kafka ne voulait pas être publié. Hein.
Ouais, c'est ça.
Kafka, normalement, on ne devrait pas le lire. Si Max Brod l'avait écouté. Elle est perfectionniste, mais en plus, elle n'a pas de chance parce que le manuscrit de son grand œuvre, elle le perd. On peut imaginer, vous lui donnez cette chance-là, peut-être que si elle ne l'avait pas perdu, elle l'aurait publié, vous ne croyez pas?
Oui, en fait, il lui arrive cette chose qui va être fondamentale dans sa vie, c'est que on est à la fin des années 90, il n'y a pas encore toutes ces sauvegardes informatiques, etc. Et elle a un livre qui est manuscrit, elle veut le porter à quelqu'un qui va le dactylographier, à qui elle va l'envoyer à des éditeurs. Elle a quand même beaucoup de doutes sur la valeur des choses, mais à un moment donné, ses amis lui ont dit « Arrête, fais-le lire à quelqu'un ». Et puis ce livre, elle va l'égarer. Et en fait, ce livre devient un fantôme hyper encombrant, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, donc Richard, de manière peut-être plus radicale, mais moi, ça m'est déjà arrivé de perdre plusieurs journées de travail. Et c'est vrai que c'est dur parce que vous avez l'impression que c'était vachement mieux que tout ce que vous pourrez faire. Et donc elle se dit que ce livre-là, elle ne pourra jamais le réécrire et que donc elle a perdu quelque chose qui est toujours meilleur. Mais il y a une partie de son esprit qui lui dit « Mais est-ce que le plus cauchemardesque, ce ne serait pas que le livre réapparaisse et que tu te rendes compte que ce n'était pas si bien ?»
Vous nous avez dit hein, pendant la pause musicale, Richard Mangiève, que vous avez perdu des manuscrits entiers.
Oui.
Par l'informatique, que vous avez supprimé des fichiers.
Ouais. J'ai même absolument pas perdu le souvenir d'avoir écrit un livre.
Ah, c'est des gens qui vous en ont parlé?
Je l'ai édité il y a pas. J'ai une minute?
Oui, allez-y, bien sûr.
C'est un livre dont j'ai parlé qui s'appelle Un petit homme de dos. Donc voilà, un jour, je le donne à lire à quelqu'un qui me dit c'est de la merde. Donc je me dis j'arrête d'être écrivain. J'étais conducteur de camion, donc je prends un boulot de conducteur de camion. Je vide tout mon bureau entre temps. Et j'ai tout et je m'aperçois que je tombe sur un petit chemise avec 40 pages ou 60 pages ou 80, tapé à 5000
ah ouais, bien
par page. Et c'était le livre que j'ai publié. J'avais oublié.
En vous écoutant, là, je me pose une question. Est-ce qu'une de vos plus grandes angoisses, ça serait que quelqu'un retrouve un de vos manuscrits et le publie sans votre accord? Ça, c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas?
Non, mais ça ne me plairait pas.
Oui,
j'y ai jamais pensé.
Non, ça ne me plairait pas du tout.
Vous dites qu'elle, ce qu'elle a peur, c'est de le redécouvrir.
C'est une peur atroce et ça serait comme celle de découvrir qu'on est le père d'un enfant et qu'on n'a pas assumé la paternité. C'est le suicide.
Non, mais ce qui est Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est le moment où on le donne au public où vraiment il se passe quelque chose aussi d'important. Il y a tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur la manière dont écrit de façon organique, mais le moment où on le porte à l'éditeur et où l'éditeur le porte au public, il y a un deuxième moment là essentiel.
Votre ami l'a dit, il existe là quand même.
Oui, c'est ça. Enfin, après, encore une fois, il y a peut-être des écrivains sans lecteur. Moi, je dirais que je suis un écrivain à lecteur. C'est-à-dire, j'écris toujours. Et ce qui me fait un peu marrer, c'est que je suis un peu comme un comploteur. J'écris ma page et je me dis, ah ça, tiens, peut-être que ça va faire rigoler quelqu'un d'autre que moi. Peut-être que là, je vais réussir à surprendre. Alors, je pense évidemment à ma compagne qui est ma première lectrice. Je me dis, peut-être que là, je vais réussir à la surprendre, etc. Et donc, fondamentalement, j'écris pour adresser un livre à quelqu'un. Et donc, c'est sûr que si un livre a peu de lecteurs, par exemple, j'aimerais que ça ne m'affecte pas, mais en réalité, ça m'affecte, parce que quand un livre a peu de lecteurs, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment existé. Ça, je l'ai senti dès mon premier roman. Moi, j'ai publié dans une collection hyper prestigieuse, La Blanche chez Gallimard, et le livre a eu absolument pas de lecteurs.
Fourbi,
ça s'appelait. Il a été vendu à moins de 300 exemplaires. J'ai eu deux articles. Je raconte ça un peu d'ailleurs dans ce dernier roman. Et en fait, j'ai senti que, alors moi, être publié chez Gallimard, ça ne suffisait pas du tout. C'était pas du tout ça. Mon but dans la vie, c'était pas de voir mon nom sur une belle couverture, quoi. Voilà.
Vous pouvez nous dire deux mots d'Alban Collinier ? C'est pas un piège, hein. Surtout pour que vous nous racontiez cette histoire, cette idée géniale que vous avez dans le livre. J'ai pris Alban Collinier parmi les autres. Hein.
Alban Collinier, c'est un des derniers qu'on va rencontrer. Idoya, en fait, elle a ce désir de perfection qui l'empêche d'aboutir. Mais tout au long de sa vie, on va la voir écrire de temps en temps des portraits de ce qu'elle appelle les écrivains parfaits. C'est-à-dire de personnages qui ont une démarche d'écriture qui est absolument radicale dans une forme. Et en fait, ces portraits d'écrivains fictifs vont jalonner le livre. Et peut-être, on comprend à mesure que le livre avance, que c'est peut-être la seule chose d'Idoya qui va nous rester, ce sont ces quelques portraits. Et Alban Collinier, c'est un auteur qui écrit des livres absolument sans aucun intérêt, vide, plat, blafard, jusqu'au moment où son petit-fils, après sa mort, se rend compte que ses livres sont blancs, qu'il n'y a que du blanc dans tous ses livres et qu'en fait rien qui puisse être seulement noir ou seulement bleu ne se trouve dans le livre. Donc il y a un renard à un moment donné et quelqu'un dit mais un renard, et il dit non mais c'est un renard arctique, il y a des renards blancs et il le prouve, etc. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a écrit une œuvre littéraire monochromatique. Donc c'est peut-être un génie des avant-gardes.
Votre récit est parsemé donc de ces récits d'écrivains imaginaires, mais aussi des écrits des uns et des autres. Et là, vous êtes amusé à construire une œuvre pour chacun. Et parfois, quand on vous lit, on regrette presque que vous donniez des idées à d'autres parce qu'on a envie que vous les écriviez. C'était des livres que vous-même vous avez noté un jour. Il faudrait écrire un livre sur ça, ou c'est vous les avez imaginés exprès là?
Alors en fait, effectivement, je raconte ces trois vies du début à la fin. Genre, je raconte pas que leur vie littéraire, mais évidemment, je raconte des gens qui écrivent. Donc, à un moment donné, arrive la question de me dire quels sont les livres qu'ils ont écrits. Et au début, je faisais ça de manière un peu cavalière. Et puis, à un moment donné, je me suis dit non, pour que le livre marche, il faut en fait que je sois hyper amoureux de leur projet littéraire. Il faut que j'aime les livres qu'ils envisagent d'écrire, les livres qu'ils publient, les livres qu'ils perdent, les livres qu'ils abandonnent, etc. Et donc là, je me suis mis à imaginer des livres possibles et évidemment, je suis allé puiser dans mes envies à moi. Et puis j'ai 46 ans, cet âge où je commence à me dire, en fait, je vais pas avoir le temps de tout écrire. Donc, dans les livres que j'ai imaginés, d'abord, il y a des références à des livres que j'ai pu déjà écrire. Il y a des références à des livres que j'aimerais écrire. Et puis, il y a des livres dont je me dis, en fait, je vais pas avoir le temps. Mais du coup, je vais leur donner 5 lignes d'existence ou une page d'existence. Et puis, peut-être qu'un lecteur se dira, mais ça, c'est peut-être pas mal. Je peux peut-être le piquer et puis en faire un vrai livre. Et donc, peut-être qu'ils existeront sous cette forme-là. Oh, je crois que ça me dérangerait pas, ouais.
Vous imaginez, parce que je l'ai pas dit encore, mais vous imaginez la vie de ce trio sur plusieurs années,
des décennies,
et même
ouais.
jusque dans l'avenir, oui. puisqu'aujourd'hui c'est dans votre livre, aujourd'hui c'est le passé, puisque oui. le narrateur écrit cette histoire après.
On sent qu'il sait ce que sont devenus les personnages,
puisqu'il se réfère parfois aux mémoires de l'un, à des interviews de l'autre. Le futur proche n'est pas très joyeux pour la France. Dans 10 ans, c'est catastrophe climatique, gouvernement illibéral et livres écrits par des ordinateurs. Donc, oui et non.
En fait, j'avais pas du tout prévu d'écrire un roman d'anticipation, mais quand j'ai voulu parler d'écrivain, je me suis dit, essaye de parler de gens que tu connais. Donc, j'ai décidé qu'ils étaient nés à peu près en même temps que moi et à peu près à l'endroit où je suis né, sur la côte basque. Ça, c'est la fin des années 70. Donc, on arrive dans les années 80, 90, 2000, 2010. Et puis, même si l'un d'eux peut peut-être mourir vite, je me suis dit, sur les trois, il y en a bien un qui va mourir vieux. Et donc, on rentre dans l'avenir. Ce que j'ai aimé, en fait, quand j'ai fait ce livre, c'est que je suis rentré dans l'avenir avec mes personnages et pas à partir une sorte d'idée préconçue ou d'un discours que je voudrais tenir sur l'avenir. Ça, c'est en général dangereux et ça fait rarement des bons livres quand vous avez une sorte de vision comme ça, programme de ce que doit être l'avenir et que vous avez envie de le raconter et que vous dites comment je vais faire, quel personnage je vais pouvoir trouver pour raconter cette vision de l'avenir. Moi, c'est pas du tout ça que j'ai fait. J'ai plutôt suivi mes personnages. Effectivement, quand je les suis dans l'avenir, bah, je me dis pas qu'on va vers des choses parfaitement réjouissantes du point de vue climatique et du point de vue politique. Donc on sent bien que ça prend un tour comme ça assez sombre. Mais pour autant, moi je commence à être un peu lassé d'une manière d'envisager l'avenir qui est toujours ultra pessimiste et qui présuppose en fait que les gens qui sont pas encore nés ou les gens qui vont venir après nous vont être plus résignés que nous et d'une certaine manière vont accepter l'inacceptable. Ah. Vous voyez, vous avez toujours ces films, moi j'adore les films de science-fiction des années 80 où des gens mangent des trucs gris, rectangulaires, qui n'ont aucun goût, et vous dites, mais moi en fait, jamais je vais accepter ça. Et on a toujours envie de penser que les gens du Moyen-Âge étaient des brutes idiotes, et que les gens du futur seront pas humains, vous voyez, seront résignés sur tout. Donc moi j'essaye quand même d'imaginer un avenir qui n'est pas marrant, mais dans lequel existent des formes de résistance, parmi lesquelles la littérature.
Vous avez parsemé de livres à des références à des auteurs que vous aimez, non ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Quand vous faites parler vos écrivains, ils parlent des écrivains que vous aimez. Et j'en profite pour citer un que vous citez, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charles Reznikov. Merci d'en parler.
Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, bon, je me suis méfié. Comme j'ai dit, je ne veux surtout pas écrire un livre sur Saint-Germain-des-Prés. Donc, il n'y a pas du tout cette idée de faire des portraits à charge, clin d'œil, où on aurait reconnaître et tout. En revanche, bah, comme ils sont dans ce tout petit monde littéraire qui est le mien, voilà, ça leur arrive de côtoyer des auteurs. Et j'en ai profité, effectivement, pour aussi déclarer mon amour à en particulier deux écrivains contemporains que je connais et dont j'aime beaucoup le travail. L'une, parce que c'est pour moi l'une des plus belles plumes d'aujourd'hui, c'est Christine Montalbetti, qui je trouve écrit dans une langue magnifique. Et l'autre, qui est un auteur qui publie aux éditions de Minuit, qui s'appelle Vincent Almendros, et qui écrit des livres qui me déroutent complètement parce que je ne comprends pas comment ça marche, je ne comprends pas comment il fait, je ne comprends pas. Voilà, c'est parfaitement organique, c'est beau, en même temps c'est minimal et je vois les coutures nulle part. Et donc moi je suis incapable d'écrire ça et on aime aussi toujours les livres qu'on ne sait pas écrire et on aime toujours les gens qui font des choses radicalement différentes de ce qu'on fait soi.
Je rebondis sur ce que vous dites, un beau livre c'est un livre où on ne voit pas les coutures ?
Ah ouais, ça je crois. Moi c'est un livre où je ne sais pas comment ça marche et ça marche.
Et vous Richard ?
Je ne sais pas, c'est le livre qui me prend.
C'est aussi organique ?
Ah oui, alors là, c'est au niveau des tripes.
Après, Frankenstein peut être organique, hein. On voit les coutures et en même temps, c'est... Non, mais moi, c'est vrai que je suis toujours sidéré par les livres où ça marche et je ne sais pas comment ça marche, ça j'aime beaucoup.
Dans votre livre, Chabi, il y a l'idée de Fernando Pessoa que la littérature est là parce que la vie ne suffit pas, mais à la fin, on a l'impression aussi que la littérature ne suffit pas.
Ouais, c'est pour ça, moi, je ne suis pas du tout sûr. En fait, je n'ai pas une thèse sur... en tout cas, je sens bien qu'on est tous, enfin les gens qui écrivent, on est souvent pris dans ce truc un peu étrange qui est que, enfin moi en tout cas, j'ai envie de passer ma vie dans mon bureau à écrire, parce qu'au fond, c'est quand même là que je suis très bien. Et en même temps, si je fais ça, si je vis plus, bah, je pense que j'ai plus rien à écrire. Donc en fait, il y a toujours ce truc de se dire à quel moment j'écris, à quel moment je vis, l'un se nourrit de l'autre, je crois. C'est-à-dire, moi je crois que plus je lis de livres, mieux je comprends ce qui m'arrive. Et en même temps, je crois que j'ai besoin de vivre des choses pour que ce que j'écrive ait du sens. Et donc, je ne suis pas du tout sûr que la littérature serve à mieux vivre. Je crois que parfois, on a besoin de faire tout à fait autre chose que d'écrire pour se sentir vivant.
Et vous, Richard ?
Moi, je pourrais dire que si je n'avais pas lu, je serais mort.
Et si vous n'aviez pas écrit ?
Je serais mort.
Aussi. Bon, on est content que vous soyez vivant. On est content d'abord parce que vous écrivez de très bons livres et puis parce que vous êtes un bel humain et vous aussi. Merci à vous deux. Merci, Chabi Molia et Richard Morgiev. Je leur donne le titre de vos livres, La vie ou presque, c'est aux éditions du Seuil et la mission, c'est chez l'immense Joël Losfeld. Voilà, c'était La Relève, préparée et présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Si tout va bien, on se retrouve dans 15 jours et on ira au cinéma. Et c'était une virgule et pas le générique de fin, mais c'est pas grave, il va bientôt partir. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission sur le site... C'était un piège que je vous avais laissé, Pablo. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris, toutes celles des saisons précédentes. En tout cas, 19h, c'est l'heure de la matinale. Et nous, on se retrouve à 20h pour une nouvelle émission consacrée à la cuisine. Allez, préparez vos casseroles.